cette religion, les saints, tous un peu comme saint Thomas d'Aquin, quand le Saint-Esprit a réalisé toute son œuvre en eux, bon, ils disent tout ce que nous avons écrit, tout ça c'est de la paille, en face de ce qui nous est donné. Et en fait, ils rejoignent tous un peu la parole de saint Jean de la Croix, quand il dit le silence et le parler de Dieu. Et donc, il m'a semblé que pour nous préparer à la Pentecôte, il était tout de même bon qu'il y ait une parole, mais qu'il n'y ait qu'une parole et qu'il n'y en ait pas deux. Pour que ça soit plus enveloppé par le silence. La fête de la Pentecôte, c'est à la fois la fête de l'Esprit Saint. Vous voyez ? Donc la fête qui rappelle comment la personne de l'Esprit Saint a été révélée à tout l'univers. Vous voyez, en fait, le jour de l'Annonciation, comme je vous le dirai dans quelques instants, le Saint-Esprit, pour la première fois, a été révélé comme personne distincte du Père et du Fils à Marie, à la première créature humaine qui a connu le Saint-Esprit comme personne. Mais c'était tout à fait dans le secret. Jésus est venu annoncer à ses apôtres, d'abord il a parlé de son Père, puis il a parlé du Saint-Esprit. Et on voit très bien qu'à la fin de sa vie, c'est surtout la révélation de l'Esprit-Saint. Mais en disant, il faut que je sois élevé de terre. Pour de pauvres pécheurs, le mystère de la naissance virginale de Jésus ne suffisait pas pour révéler le Saint-Esprit. À cause de leurs péchés, il fallait la grande croix. La grande croix élevée de terre. C'était le grand signe, le signe du sang, et en même temps le signe du feu par la résurrection, qui devait manifester le Saint-Esprit. D'où, c'est vraiment la fête de la personne de l'Esprit-Saint. Mais en même temps, c'est réellement la fête de l'Église. Parce que c'est le jour de naissance de l'Église, c'est le jour de la Pentecôte. Si elle a été enfantée, conçue, quand Jésus a donné Marie à Jean, et quand après ce don réciproque, au fond, Jésus a offert son sacrifice avec Marie, et puis que la résurrection a montré que le Père, a donné le signe que le Père avait parfaitement agréé ce sacrifice, que le sacrifice était essentiellement un sacrifice d'amour, qui reliait de nouveau la terre au ciel, alors, à ce moment-là, si vous voulez, l'Église a été conçue. Mais dans les desseins de Dieu, il fallait que Jésus non seulement soit mort et ressuscité, mais qu'il remonte près de son Père, et que pendant ces 10 jours que nous sommes encore en train de vivre, de recommémorer, et comme cette grande retraite pendant laquelle les apôtres se sentent si fort orphelins, où Marie s'est sentie si fort veuve, en quelque sorte, où l'univers a compris dans ce tout petit groupe, mais qui était comme la conscience collective de tout l'univers qui avait été formé par Jésus et par tous les événements qu'il avait vécu, que le monde ne pouvait plus vivre sans l'Esprit Saint et sans Jésus. Et le jour de la Pentecôte, alors c'est le jour où les apôtres, recevant le Saint-Esprit, alors peuvent maintenant accomplir les ordres que Jésus leur a donnés. Et c'est ce jour-là, c'est le jour de la naissance de l'Église. Alors c'est pour ça que c'est une si grande fête, parce que c'est une fête qui se continue. Vous voyez, c'est la fête que nous vivons. La Pentecôte n'est pas achevée. voyez, et même pour nous, très particulièrement, et je pense qu'il faut le vivre très fort dans cette Pentecôte de cette année. Vous voyez, parce que la Pentecôte, c'est essentiellement une fête présente, parce que le Saint-Esprit sur la terre ne se donne que dans l'instant présent. Ce n'est pas dans le passé, ce n'est pas dans l'avenir, c'est dans le présent. Vous voyez ? Or, cette fête de la Pentecôte que nous vivons cette année, après le Vatican II, avec tout ce que notre pape actuel nous donne, entre son voyage en Afrique et son premier voyage en Europe officiel, en quelque sorte, qui va commencer en visitant la fille aînée de l'Église, mais qui a un peu oublié qu'elle était la fille aînée de l'Église, pour venir en quelque sorte la réveiller. Bon, et cette Pentecôte, elle nous oblige en quelque sorte à prendre conscience que si, vous voyez, le Saint-Esprit se révèle continuellement, vous voyez, dans l'instant présent, mais qui se sert du temps pour se révéler. Et qu'au fond, vous voyez, ce que la philosophie n'a jamais pu comprendre. Il n'y a que Dieu qui peut faire comprendre que ce mystère de la Sainte Trinité, vous voyez, dont le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui nous dit, est l'esprit inspirateur, qui se réalise donc dans un temps éternel, nous sommes obligés de dire dans un temps éternel, parce que ce n'est pas dans l'immortalité, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est dans un mouvement, mais un mouvement tout à fait immanent, tout à fait intérieur. Pour le comprendre, nous avons besoin à la fois de voir tout ce qui est immobile et en même temps de voir le mouvement, dans un des deux, pour voir entrer dans ce mystère de la Sainte Trinité. Et nous savons que le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'inspirateur de toute l'histoire du monde. Vous voyez, dans mes cours que nous faisons depuis le début de cette année, c'est au fond le point sur lequel nous insistons le plus. Vous voyez, que les hommes, c'est vrai, au fond, sont en train de découvrir, n'est-ce pas, de chercher, mais le sens de l'histoire. Au fond, c'est ce qui caractérise le plus la pensée moderne. Et puis après, on va chercher le sens de l'histoire, sans arriver à dire, mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire des hommes, c'est qu'en même temps, les personnes jouent un rôle considérable. Il y a l'histoire et les personnes. Donc il y a cette double recherche, à la fois de saisir le sens de l'histoire, et en même temps, le sens existentiel de chaque personne. Parce que la personne dit, oui, moi je vis dans l'instant présent. Et nous avons cette capacité extraordinaire comme esprit de pouvoir donner à l'instant présent, comme dit Saint Jean de la Croix, une épaisseur. Et de voir que pour rejoindre l'éternité, ce n'est pas dans le passé, ce n'est pas dans l'avenir, ça c'est notre imagination. C'est dans notre cœur quand il vit dans cet instant présent. Et quand il est en contact entre personnes, de cœur à cœur. Et nous découvrons que l'amour, tout amour, il n'est pas dans le temps. Voyez, il y a quelque chose d'éternel. Alors, ça nous fait comprendre, si je vous le dis ça, voyez, c'est que dans le mystère de cette Pentecôte de cette année, voyez, nous nous rendons compte que l'histoire de l'Église elle-même, et c'est un très grand mystère. Et au fond, en un certain sens, ça apparaît. Si on voit que cette histoire de l'Église, elle est absolument inséparable de l'incarnation, mais que dans les desseins de Dieu, c'est un autre mystère, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est un mystère qui, dans le temps, se réalise après. Et qui nous fait comprendre ces paroles si mystérieuses de Jésus. Quand il dit, il est bon que je m'en aille, vous ferez des œuvres plus grandes que j'ai faites. Bien sûr, c'est toujours Jésus qui va les réaliser. Mais il faut qu'il soit remonté près de son Père, pour qu'il nous envoie l'Esprit Saint, pour qu'il y ait encore des œuvres plus grandes qu'il fasse. Et l'œuvre par excellence du Père, c'est cette Église. Vous voyez, et cette Église, pour laquelle dans cette Pentecôte, nous avons une telle reconnaissance au bon Dieu, voyez, au lieu de considérer que le monde dans lequel nous vivons maintenant, le voir sous l'aspect d'un monde de malheur ou tout ça, mais non, l'action de grâce, que le bon Dieu nous ait gardé en vie, vous voyez, après ce Vatican II, après ces deux conciles du Vatican, ils vont être les deux conciles qui vont permettre à l'Église de prendre conscience des desseins divins de Dieu sur elle. Vous voyez, saint Thomas d'Aquin, qui a été on peut dire, c'est les papes le disent eux-mêmes, le plus grand des théologiens, en quelque sorte, comme théologien. Et saint Thomas d'Aquin a toujours été le plus grand des théologiens qui a été extrêmement obéissant. Obéissant au Saint-Esprit, obéissant à ses supérieurs. Et alors, il y a certaines œuvres de saint Thomas d'Aquin qui ne sont pas achevées. Bon, parce qu'elles relèvent simplement, elles sont le résumé de son enseignement. Les notes de cours ont été prises par ses élèves, par ses auditeurs, et puis qui ont été inscrites comme on le faisait au Moyen-Âge. Et que saint Thomas d'Aquin, quand ses supérieurs l'ont envoyé ailleurs, il n'a pas pu acheter son cours, il a pris un autre cours. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on voit que les œuvres que saint Thomas d'Aquin n'a pas pu achever, il y a la somme théologique et sa grande œuvre capitale, ça finit avec les sacrements. Dans son plan, il devait y avoir les fins dernières, mais il n'a pas pu les finir. Et au fond, il nous a donné une petite indication en disant tout ça, c'est de la paille en face de ce que je vois maintenant. C'est que ce n'était pas le moment. L'Église était encore que simplement dans son Moyen-Âge. Donc on ne pouvait pas, de façon précise, vous voyez, mais comme doit être une connaissance certaine, vous voyez, faire la théologie de cette histoire de l'Église. Vous voyez. Or, en fait, pour nous, vous voyez, cette action de grâce que nous avons, c'est que ces deux conciles aient acheté une lumière extraordinaire, nécessairement obscure, parce que la lumière de la foi est toujours dans la nuit. Et non seulement nécessairement obscure, mais crucifiante, parce que quand on le vit, ça la croit. Vous voyez. Mais sur ce mystère de l'Église, il va reprendre, d'ailleurs, ce que saint Thomas d'Aquin, quand il parlait des sacrements, la grande trouvaille de saint Thomas d'Aquin dans son traité des sacrements, ça a été montré que les sacrements, c'était des signes d'amour, mais qui reprenaient les différentes étapes de la vie humaine. Vous voyez, de voir comment les sacrements nous faisaient revivre d'une façon divine notre toute petite enfance, dès le début, et puis au point avec le sacrement de confirmation, l'adolescence, et puis avec l'âge mûr, au fond, le sacrement de mariage ou l'homme, n'est-ce pas ? Et puis qu'on avait besoin tout le temps, durant tout ce, de nourriture, et puis qu'on avait besoin de réconciliation continuelle. Et puis qu'après une enfance, il y a un âge de nouveau très fort de l'amour, la vieillesse, et qu'il y a un nouveau sacrement qui donne le signe de la maladie et de la vieillesse pour montrer comment, par là même, on peut encore se rapprocher davantage de l'Esprit-Saint. Bon, ça, c'était déjà quelque chose, une intuition extraordinaire. Vous voyez, comme dans saint Thomas d'Aquin, c'est le plus beau traité au point de vue moral, c'est un traité de l'acte humain, mais peut-être encore plus sublime, son traité des passions. Mais où il a montré que tout commençait avec l'amour, et tout s'achevait avec l'amour. Et que quand il a traité de la passion de l'amour, saint Thomas d'Aquin qui était tout simple, vous voyez, qui n'avait jamais connu le monde, vous voyez, alors que comme aristotélicien, quand il parlait de la colère, quand il parlait des convoitises, quand il parlait des jouissances, ainsi de suite, il prenait tous les exemples dans la littérature ancienne, dans tous les grands faits des Grecs, des Latins. Quand c'est chez l'amour, on est saint Grégoire, il prenait saint Augustin, il n'y avait que les saints. Au fond, c'est ça qui est extraordinaire quand on traite le traité de l'amour de saint Thomas dans les passions, simplement. Qu'en fait, que pour un adulte, pour lui, il y a de vrai, véritable amour, au fond, que chez les saints, que chez les mystiques. Et c'est là qu'on trouve les données les plus précieuses de saint Thomas, au point de vue mystique. Voyez, donc, il y avait déjà comme toutes ces ébauches. Voyez, mais Vatican II, voyez, après Hegel, après Heidegger, après toute cette philosophie de l'histoire, de la phénoménologie, de l'existentialisme, et au fond, le structuralisme, qui s'y rattache, tout ça. Bon, est venu nous donner les éléments, vous voyez, pour une véritable théologie de l'histoire, théologie de l'histoire, mais l'Église, la lumière de l'Église, vous voyez, montrant que l'Église avait commencé dans une toute petite enfance, l'âge des pères, et que durant cet âge des pères, bon, ou plutôt pas l'âge des pères, l'âge apostolique, bon, quand les apôtres vivaient encore, quand Marie était encore là, et alors que le Saint-Esprit pouvait se donner pleinement, et qu'il n'y avait que les institutions divines établies par Jésus, avec le diaconat que les apôtres avaient ajouté, mais qu'au fond, ça suffisait, au fond, pour que cette Église se répande partout, que saint Thomas, l'apôtre, aille jusqu'aux Indes. Non, que cette Église, tout de suite, par une espèce de Pentecôte extraordinaire, il y ait des petits feux qui seraient allés sur toute la terre. Bon, et puis qu'après, cette Église, il a fallu qu'elle ait une croissance dans les desseins de Dieu. Il y avait toute l'enfance avec l'âge des pères. Et puis ce Moyen-Âge, au fond, à la fois qui est l'adolescence de l'Église, la grande enfance, si on peut dire, et puis l'adolescence de l'Église, avec tout le remous qui ira après avec la Renaissance. Et puis que, après une espèce d'âge mûr, où les hommes, arrivant à découvrir un peu toutes les ressources de l'univers, les hommes ayant des prétentions, mais justes, de justice, tentant qu'il faut que tous les hommes ne fassent qu'un. Il faudrait que chacun ait sa part. Bon, des exigences très fortes, mais constatant très fort son impuissance pour le réaliser. Alors, c'est Vatican II nous fait, vous voyez, comme quand nous le voyons à la lumière de Jean 23, le pape qui a eu la grâce, le charisme, le don de Dieu, pour appeler les pères, pour l'inaugurer. C'est le rôle du pape, le rôle essentiel d'intuition qu'il a là comme personne. Il a annoncé que c'était, au fond, qu'il allait avoir une sorte de Pentecôte. Vous voyez, cette Église qui va avoir un soin extraordinaire pour tâcher de bien distinguer dans la vie de l'Église les institutions humaines qui viennent selon des temps différents, selon des lieux différents, et qui sont voulus par Dieu, mais comme des institutions ecclésiastiques. C'est le droit canon de l'Église. C'est l'Église qui a le droit de légiférer, que l'Église désire faire. Mais en même temps, en voulant maintenir avant tout, rappeler avant tout les institutions alors divines, de droit divin, les sacrements, les mystères ordonnés, la papauté. Il montrait que cette Église, au fond, elle est, sans qu'il dise d'une façon, qu'elle est comme dans ses derniers temps. Et pour les gens de ma génération, ceux qui sont plus âgés ici, sentent la même chose. Vous voyez, quand on pense à toutes les transformations qu'il y a eu dans notre univers, on voit simplement au point de vue architectural, par exemple, au point de vue scientifique, c'est encore plus vrai. Que l'univers a plus changé depuis 50, 60 ans qu'il avait changé depuis les Romains. Si vous prenez au point de vue construction, les matériaux modernes montrent que les hommes ont des procédés de construction, alors que quand on regardait les briques, la pierre, les mortiers employés déjà par les Romains, qu'on retrouvait à Rome, dans tout le bassin méditerranéen, on voit que c'est vrai, le monde est dans une mutation extraordinaire. Quand on voit les dernières découvertes des savants, aussi bien au point de vue physique, au point de vue mathématique, qu'au point de vue des sciences humaines, on se rend compte que vraiment, l'humanité arrive à une sorte de maturité, en quelque sorte. Et alors que, ce que je vous disais les fois précédentes, l'épreuve qu'il y a eu pour les anges comme esprit pur, dès le début, dans le premier instant de la création, vous voyez, où pour les anges ont eu à choisir, est-ce que cet univers matériel auquel ils étaient liés par un bon plaisir de Dieu, non pas par une nécessité de nature, est-ce qu'ils allaient le prendre comme un objet d'un jeu pour eux, entre eux? Donc, en le façonnant selon leur bon plaisir, selon leurs idées angéliques, ou au contraire, est-ce qu'ils reconnaîtraient que c'était une matière pour que Dieu leur parle? un langage d'amour. Et que c'était en même temps un instrument et une matière pour une épreuve redoutable, voyez, d'espérance, d'obéissance. Autrement dit, est-ce que cet univers matériel était comme une espèce de matière quantitative, hein, qui était faite pour constituer une espèce de superstructure, au point un jeu splendide, une espèce d'exposition qui pourrait réunir tous les esprits angéliques ensemble, dans un langage, dans un jeu, hein, ou est-ce qu'au fond c'était quelque chose de très profond qui allait permettre à ces esprits angéliques, hein, qui pouvaient bien, qui par eux-mêmes avaient une évidence que Dieu était créateur, que Dieu était tout-puissant, de son intelligence infiniment sage, de sa bienveillance extraordinaire, mais le secret de Dieu, tu ne pouvais pas le connaître. J'avais une parole d'amour. Et qu'au fond, c'est cet univers de lumière, de vie, d'amour, qui leur permet cette révélation, comme Saint Jean nous le dit. Et qu'au fond, il semble que maintenant, pour l'homme, c'est la même question. Il expose très fort. Est-ce que l'homme a le droit, au fond, de façonner cet univers, au fond, selon ses conceptions, hein, chez les meilleurs comprendront bien que ça doit toujours être au service de la justice, hein, mais certains voudraient réaliser cette œuvre de justice sans faire appel à un Dieu révélé, sans faire appel aux révélations, aux religions d'amour. Hein, ça a été le grand effort de l'encyclopédie, ça a commencé à ce moment-là, et ça continue. Hein. Au fond, de gens disant, après tout, ça n'a pas tellement d'importance, on peut unir très bien les gens qui croient et les gens qui ne croient pas. Au fond, la grande question, c'est d'organiser notre univers sur la justice entre nous. La question de Dieu, c'est une question secondaire, on la verra après. Au fond, la première question, c'est d'arriver tous ensemble à nous entendre au plan de la justice. Ou bien est-ce qu'au contraire, la première question, avant tout, chercher le royaume de Dieu et sa justice. Avant de commencer à vouloir organiser les choses, même dans un but de justice, même comme des hommes de bonne volonté, bah, par votre nature même, vous êtes obligé de poser des questions de la foi. Vous voyez ? Alors, c'est vraiment, on sent le dilemme. Mais on sent que notre pape, on a un sens extraordinaire. Bon. Parce que c'est un dilemme maintenant, qui, comme il dit, c'est pas simplement le salut de chaque personne humaine qui est en jeu, mais le salut de l'homme. Le salut même du cosmos tel que Dieu l'a fait. Parce que, au fond, l'homme en lui la capacité de pouvoir provoquer une catastrophe générale. Et, vous voyez, notre pape réapparaît toujours sous l'aspect de l'espérance. Ça te montre qu'au regard de Dieu, rien n'est perdu. Au regard de Dieu, si les hommes voulaient maintenant, tous ensemble, revenir au Christ, à notre Seigneur, revenir à l'Évangile, tout pourrait s'en mettre en ordre. Il n'y a encore rien de perdu. Mais peut-être que les temps pressent. Vous voyez, alors, vous comprenez comment cette fête de la Pentecôte, vous voyez, et pour nous, à la veille de cette venue du pape, et comment cette fête de la Pentecôte a une signification toute particulière. À la fois comme la fête de l'Esprit-Saint et à la fois comme la fête de l'Église. Vous voyez ? Bon. Alors pour tâcher de nous faire entrer encore un petit peu plus profondément, vous voyez, parce que je voudrais que, pour vous préparer à la messe de ce soir, bon, il y a la messe de ce soir, ce sera une messe solennelle, bon, la messe du soir de la Pentecôte, c'est déjà la Pentecôte qu'on commence. Ben, oui, avec les trois leçons. Mais la première leçon, l'Église donne trois. Il y a quatre leçons qu'on peut choisir. On ne pourra pas lire les quatre, ben, malheureusement. Parce que dans l'esprit même de l'Église, il faut simplement choisir. On ne pourra pas faire comme le samedi saint. Et en réalité, c'est un peu comme le samedi saint. Le samedi qui précède la Pentecôte. Vous voyez ? Bon, parce que chacune de ces leçons apporte une note tout à fait importante. Mais c'est tellement, il me semble, nécessaire, parce que sans savoir les secrets du Vatican, de la diplomatie du Vatican, ni le secret de la diplomatie du gouvernement, ni de la conférence épiscopale de France, ben, au fond, d'après les simples faits extérieurs, on se rend bien compte que ce voyage du pape, ça a posé tout de même pas mal de questions, enfin, il y a eu des hésitations. Vous voyez, et que notre pape, qui semble être, et qui l'est, à la fois un prophète et un mystique, ben, au fond, qui ne se laisse pas influencer, ben, qui sait que comme humble vicaire, il doit suivre avant tout ce que le Saint-Esprit lui demande, sans qu'il a un peu bousculé les gens. Et qu'il a tenu comme si il fallait pas tarder. Il savait bien que l'année prochaine, il devait venir en France pour le congrès eucharistique. Mais que pendant un an, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient se passer. Et qu'au fond, cette France qui est la fille aînée de l'Église, bien sûr, malgré toutes ses infidélités, malgré toutes ses, au fond, toutes ses misères, ben, peut-être que dans les desseins du bon Dieu, elle a encore un rôle à jouer. Au fond, ben c'est vrai, nous savons que en France, il y a tout de même il y a des saints, pas des saints, parce qu'ils ne sont pas encore canonisés, mais il y a un arbre bas, il y a beaucoup de signes, au fond, il y a beaucoup de. Au fond, des personnes, la petite Thérèse de Lisieux, tout de même, a vécu tout de même en France. Ben, Bernadette, Lourdes, ça a été tout de même en France. Donc, enfin, on sait que la Sainte Vierge, pour les desseins de Dieu, compte encore sur notre pays. Et peut-être, quand on regarde à la lumière de l'Ancien Testament, ben, surtout sur les souffrances des Français, surtout sur les souffrances de ceux qui sont pleinement fidèles, parce que c'est toujours par la croix que le bon Dieu réalise ses desseins. Donc, il me semble que cette Pentecôte, nous avons attaché la vivre, mais de la façon la plus intense possible. Alors, pour tâcher de vous y aider, voyez, je voudrais d'abord vous montrer, en rappelant surtout pour ceux qui ont suivi un petit peu les autres cours, mais de façon assez explicite pour que les autres puissent ainsi en profiter, de montrer comment il y a un grand mystère dans le mystère de l'Esprit-Saint. Et comment toute la science moderne, chez les meilleurs de ces savants, surtout ceux qui humblement tâchent de voir les liens entre leur foi et la science. Vous voyez, et nous, avec Xavier Le Pichon, nous savons très bien dans tout ce qui fait conférence à propos de la création, tout cela, qu'ils tâchent de découvrir en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment aider nos contemporains à retrouver leur foi? Alors, je voudrais que d'abord nous saisissions très bien comment, de fait, ça nous apparaît pour nous une chose absolument certaine, que l'univers a été fait à la ressemblance de la Sainte Trinité et non pas du Dieu des philosophes. Et je pense que tout ce que nous avons vu déjà, au fond, le montre assez bien. D'où ce mystère très grand de la matière. Pour l'homme, ce mystère de sa sensibilité, dans le sens où nous avons essayé de le préciser le plus possible, vous voyez, c'est un mystère que la philosophie seule ne veut pas arriver à approfondir. Vous voyez, mais en même temps, nous prenons conscience plus que jamais que la Sainte Trinité ne peut être connue que par une grâce. Et que l'ordre surnaturel suppose nécessairement une nature. Parce que cette ordre surnaturelle est toujours gratuite. Donc, il suppose nécessairement, comme ce n'est que par l'amour qu'on peut pénétrer dès cette terre dans les secrets de Dieu, mais un amour réciproque. Donc, qui demande cette liberté. Alors, c'est le premier point qui nous a paru, depuis que nous avons commencé ensemble à revoir un petit peu notre théologie à la lumière de Vatican II. Vous voyez, c'est que l'univers matériel, dans ses dispositions, telles que Saint Jean nous présente, oui, la lumière, la vie, l'amour, que cet univers, il semble avoir été constitué par Dieu, institué par Dieu, si vous voulez, si nous prenons les structures fondamentales que Dieu lui a données, oui, selon quel art Dieu l'a façonné. Il a été fait avant tout pour cette épreuve des vertus théologales. l'amour de pour l'ange, et vous étiez en train de commencer à le voir pour l'homme. Hein? Premier point. Alors, le second point, hein, c'est qu'à partir de là, l'appareil qu'on peut encore préciser un petit peu plus, et dire que l'univers matériel, comme un univers matériel, il y a le plus mystérieux dans cet univers matériel, vous voyez, c'est cette matière. Hein, Aristote, sa grande trouvaille, ce qui a fait qu'il est au fond le plus grand des philosophes, et celui qui a le plus inspiré non seulement les anciens mais même les nouveaux, la philosophie contemporaine, c'est qu'il a découvert qu'il y avait une matière première qui devait avoir une unité extraordinaire et assurer une espèce d'unité dans son univers extraordinaire. Alors, ce que nous arrivons à voir, c'est de dire, mais dans ce mystère de la Sainte Trinité, le Père éternellement engendre son Fils. Cette génération éternelle du Père et du Fils, pour tâcher de la comprendre comme notre Seigneur nous le donne, nous approcher de plus près, il ne faut pas que nous restions à voir cette génération éternelle comme simplement une génération venant de la nature de Dieu. Il faut dépasser le point de vue de la nature. Que nous ne pouvons pas simplement nous placer non plus en disant « mais l'intelligence de Dieu, Dieu intelligence suprême, Dieu a comme un besoin de se dire, de s'exprimer. » Et le verbe de Dieu, c'est comme une nécessité pour l'intelligence divine de s'exprimer. Donc ces deux points de vue, il faut les dépasser. Vous voyez, Saint Jean, avec sa simplicité, sa profondeur, au fond, il nous dit que tout ce qu'il a révélé, c'est l'escret du Dieu d'amour. Dieu est amour. Voilà la grande révélation qu'il vient nous apporter. D'où, tout naturellement, pour nous, comme théologiens, quand nous tâchons de rester très près de la révélation. Donc, le mystère de la Sainte Trinité, c'est vrai que le Père éternellement engendre son Fils. Ce Fils est à la fois Fils et Verbe et Parole. Mais il faut que nous comprenions bien que pour comprendre cette génération, il faut voir que l'Esprit Saint, on est comme l'Esprit inspirateur. Bien sûr, l'Esprit inspirateur n'a pas la manière d'un esprit comme nous le concevons. L'Esprit Saint, la troisième personne de la Sainte Trinité, est absolument égale aux trois personnes, co-éternelle avec elle. Mais quand nous pouvons tâcher d'expliciter et donc d'entrer un peu dans la compréhension de ce mystère. Saint Thomas nous dit qu'il y a trois noms propres que la révélation nous a donnés pour parler de l'Esprit Saint. Esprit Saint, donc comme l'inspirateur de cette génération éternelle. Et puis l'amour, la communion du Père et du Fils, et puis le don. Parce que une communion d'amour qui se termine, qui s'achève dans un don. Et ça, c'est ce qui est la révélation du plus sûr sur cette troisième personne. Mais en même temps, ça nous fait comprendre que nous devons essayer un petit peu d'expliciter durant toutes ces années que nous ne pouvons pas nous contenter pour entrer dans le mystère de cette génération éternelle, il y a le Père et le Fils. Un très grand mystère, mais que nous ne pourrons pas la comprendre si nous ne voyons pas l'Esprit Saint. Les trois personnes divines sont absolument inséparables. Elles sont distinctes, mais elles s'appellent nous. Nous, pour nous, c'est-à-dire, mais cette génération, au fond, c'est le Saint-Esprit qui en est l'inspirateur. Et c'est pour ça qu'au fond, il est à la fois l'esprit inspirateur de cette génération, il l'accompagne en quelque sorte, parce que ce Père et ce Fils, au fond, ils s'aiment, parce que ce Père, ce Fils, il est le Fils bien-aimé. Bon, et puis ça s'achève dans l'Esprit Saint qui est le don. Mais l'Esprit Saint est le don. Saint Thomas le présentera très fort dans sa théologie du Saint-Esprit. Et en reprenant les expressions philosophiques dont on doit toujours se servir dans une théologie rationnelle, pour tâcher d'expliciter des mystères qui nous dépassent, je dirais c'est comme le don passif. En sens que ce mystère, alors qu'il dira de Dieu, c'est le Père et le Fils se donnent à l'Esprit Saint. Et ce mystère de l'amour de Dieu, c'est que celui qui est donné, il est absolument égal à ce qui donne. Au fond, le Saint-Esprit est absolument égal, co-éternel, bien le don. Mais alors avec la création, qui est tout à fait contingente, absolument pas nécessaire. Mais cette création qui, dès le début, on voit que tous les pères de l'Église, tout le monde, quand ils ont vu l'Esprit, c'est toujours au plan de l'amour qui se place, spontanément. Cette génération, cet univers, les trois personnes divines et l'œuvre commune des trois personnes divines, mais elle apparaît dès le début comme avant tout fait pour que le Saint-Esprit lui-même puisse se donner. Que cet univers matériel immense, il est fait pour que le Saint-Esprit puisse l'inspirer, c'est lui qui est l'inspirateur de tout cet univers. Pour que le Saint-Esprit puisse comme accompagner de cet art divin de Dieu, pour que cet art soit tellement différent de l'art brutal des hommes, de l'art mécanique des hommes. Vous voyez, qu'il y a cette nuance, il y a cette douceur d'un art d'amour. Hein, que nous sentons tout de suite, suavitaire et fortitaire. Il est ferme, mais il est toujours suave. Et au fond, on se rend compte, ben, les machines des hommes, on est les machines les plus parfaites, vous voyez, les machines que les hommes utiliseront pour la réanimation, ainsi de suite, il y a une onction de l'Esprit-Saint qu'elles ne peuvent jamais avoir. Vous voyez, toutes les études psychologiques que les hommes font, il n'y a qu'une seule chose qui ne sévise pas, et qui est pourtant plus important. Vous voyez, c'est cette onction qui vient de l'Esprit-Saint. Vous voyez que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Au point de vue concret, la réalité est beaucoup plus mystérieuse, et en même temps, elle est bien plus douce. Il y a toujours un amour. Vous voyez. Alors, c'est là, vous voyez, cette seconde intuition. Pour notre univers, il faut le voir à la lumière de la Sainte Trinité. Et ça me paraît capital, vous voyez. Parce que dans notre monde occidental, vous voyez, l'athéisme est né. Hein, vous voyez, des philosophes qui, après leur naissance, ont voulu réduire le mystère, le mystère de Dieu et les traités de Dieu à un traité philosophique. Vous voyez, ont rejeté le Dieu de la révélation. Et ont cru qu'en fait, ce Dieu de la philosophie, ça rejoignait tout à fait le Dieu de la révélation primitive. Vous voyez ? Et que si ce Dieu de la révélation primitive se présentait comme le Père de Lumière, enfin, ainsi de suite, au fond, c'est des belles métaphores pour le peuple, pour les petits. Mais que le philosophe arrivait à dépasser ces métaphores pour découvrir le Dieu de la philosophie. Vous voyez ? Mais en même temps, il a supprimé l'aspect de l'amour. Oui, il a maintenu bien la bonté en Dieu. C'est la différence entre bonté et amour. Enfin, il y a un abîme. Hein, c'est le message de la Sainte Trinité, il fait comprendre. Vous voyez, donc, le premier point, vous voyez, c'est très très important. Parce que, vous voyez, quand vous relisez les choses de Voltaire, hein, vous voyez, quand vous reprenez les choses de la franc-maçonnerie, vous voyez, Dieu le grand horloger, mais Dieu le grand architecte. On comprend que des gens qui étaient pénétrés de cela, leur conception de Dieu, c'est uniquement cela. Et quand les savants ont dit, mais la vie, ça dépasse toutes les lois. Mais la vie, c'est quelque chose qui, au fond, de spontané, c'est quelque chose qui paraît dur, ça a des lois. Et puis quand on a pressenti que la matière avait un mystère de puissance, d'énergie, on a deviné un peu ce qu'il devait y avoir dans l'atome. Non. Mais la matière, elle ne se réduit pas à la quantité. Bon, c'était le triomphe de la physique sur la mathématique. Bon, et en même temps, là, ils ont dit, ben oui, alors tout ça, ça échappe à Dieu. Bon, c'était absurde. Mais pour des gens, vous voyez, qui étaient tellement fermés, et puis étaient orgueilleux, qui étaient. Bon, et là, en fait, ils ont fait de la matière leur Dieu. Bon, en disant, pour l'homme, ce que même il a. Son intelligence, qui est vraiment immortelle, mais finalement. Alors que, actuellement, pour tâcher de réveiller la. C'est de regarder tout l'univers, la lumière de la Sainte Trinité. Vous voyez, et on voit très bien Vatican II, c'est l'effort de Vatican II. Nous dire, il faut tout de suite aller à Jésus, et Jésus qui nous révèle le mystère de la Sainte Trinité. Vous voyez, au fond, Jésus seul peut nous faire connaître le mystère de la Sainte Trinité. Oui, il ne faut pas vouloir chercher des vestiges trop humains, ça n'est pas suffisant. Il n'y a que Jésus qui peut nous révéler. Mais il faut tout de suite, la seule religion qui actuellement, vous voyez, peut résister au rationalisme, peut résister à toutes ces spiritualités agressives, au fond de la force, ben, c'est les deux grands dangers de notre époque, vous voyez, c'est-à-dire au fond de ne plus faire aucune place à l'amour et donc plus aucune place à la personne, ben, bon, ben, de dire il faut tout de suite, il n'y a plus que Jésus qui est la lumière, il n'y a plus que Jésus qui est le sauveur. Mais Jésus, fils de Dieu, Jésus, fils de l'homme, qui vient au fond nous révéler l'escret de Dieu et l'escret de l'homme. Jésus qui non seulement est mort, mais qui est ressuscité. Jésus qui est toujours vivant au milieu de nous, dans son église. C'est lui qui est l'unique sauveur. Alors, vu de cette manière, c'est vrai que l'univers nous apparaît comme une histoire extraordinaire. C'est vrai, il a commencé simplement dans la lumière, avec les Écritures. Et puis c'est qu'après des milliards d'années, peut-être, je ne sais pas, que la vie a commencé. Et puis que la vie a commencé avant que l'homme n'apparaisse. Mais alors cette histoire, elle apparaît comme toute inspirée par l'Esprit-Saint. C'est une histoire d'amour. Mais c'est une histoire d'amour que Jésus vient nous faire saisir un petit peu, quelques jalons. Et alors, ça nous fait revoir l'histoire de l'Église. Vous voyez, parce que dans ce grand mystère de cette histoire, dès que l'homme apparaît, ce pauvre petit esprit incarné, mais qui comme esprit peut connaître l'ensemble, mais qui comme esprit peut découvrir le passé, comme esprit peut connaître les desseins de Dieu pour l'avenir, ce tout petit esprit, chacun de ces esprits peut à la fois être tout et puis s'insérer comme une toute petite partie au fond dans cette grande lignée. Dans cette grande lignée de l'humanité, tous les vivants. Vous voyez ? Alors, et Dieu fait comprendre que dans son amour extraordinaire, cet amour de l'Esprit Saint, l'amour pour les personnes, et en même temps, il peut comme reprendre continuellement, et cette histoire de l'Église peut reprendre toute la vie du monde, avec l'histoire des pères, avec l'histoire, avec le Moyen-Âge, avec la Renaissance, et puis maintenant, tant que nous sommes. Mais qu'on arrive à se dire, on est dans le dernier acte. Vous voyez, on est dans le dernier acte. C'est vraiment dans l'histoire de l'Église, dans le moment de la Pentecôte. Vous voyez, il y a un tout petit signe qui va vous le donner. Vous voyez, parce qu'on peut dire qu'actuellement, on peut dire que presque tous ceux qui ne croient pas au Christ et qui ne mettent pas Jésus et l'Église catholique au-dessus de tout, ils sont plus ou moins influencés sans s'en rendre compte. Vous voyez, par la philosophie d'Hegel. Cette philosophie d'Hegel, au fond, Marx est influencé par Hegel, Nietzsche est influencé, au fond, cette philosophie d'Hegel, c'est-à-dire cette philosophie de l'histoire. Vous voyez ? Or, dans cette philosophie de l'histoire que nous répétons tous, en quelque sorte, vous voyez, c'est là un dialectique. Vous voyez ? Alors, il suppose que l'histoire avance, faisant des thèses, puis des antithèses, puis on fait la synthèse. Et alors, dans cette histoire, bien sûr, ça montre que les guerres ont leur place. Parce qu'au fond, que les révolutions ont leur place et qu'elles sont nécessaires même pour que le monde évolue. Et donc, il faut faire des expériences. Oui, mais alors, on arrive à un moment maintenant où faire l'expérience de la Troisième Guerre mondiale, les hommes se disent, oui, mais... Oui, Mao disait encore, n'est-ce pas ? Mao disait, oui, la prochaine guerre, il y aura la moitié de l'humanité qui disparaîtra, mais il y en aura une qui demeurera. Mais maintenant, c'est plus vrai. Alors, maintenant, les hommes hésitent en se disant, mais une dernière guerre, mais est-ce que c'est pas la fin de tout ? Et alors, au fond, terrifiés, parce que pour tous ces gens de la philosophie de l'histoire, mais l'espérance de l'homme venait de là. Et on a besoin de faire des expériences quand on est jeune. Au fond, mais les jeunes ont besoin de faire des expériences. Et au fond, la plupart du temps, leurs expériences, ça se passe au plan du pays, au plan... Et voici que maintenant, les hommes sont affolés. Vous voyez, quand ils se disent... Mais quand avant la guerre de 40, les premiers grands savants qui avaient demandé au gouvernement français de pouvoir faire des expériences dans le Sahara, pour voir un petit peu, au fond, pour tâcher de découvrir le point du gâteau, au fond, tout ce qu'il y a autour de la... Bon. Et puis que les grands s'étaient dit, est-ce que c'est prudent ? On n'a pas voulu. Bon. Et puis que Einstein, lui, a été obligé à révéler ses secrets au gouvernement américain, en sachant que les Allemands l'avaient et qu'il fallait aller plus vite. Bon, mais qu'une fois qu'on a employé la bombe, vainqueurs et vaincus ont tous été affolés, en se disant, mais au fond, est-ce que ça a jeté un froid dans toute l'humanité, une angoisse dans toute l'humanité? Vous voyez, alors, vous voyez combien c'est nécessaire de voir maintenant, à la lumière de l'histoire de l'Église, vous voyez, de voir que le Saint-Esprit, c'est toujours lui, au fond, qui prévient, qui a des initiatives, mais les hommes ne le suivent pas. Mais qu'il y a des inspirations, il y a des inspirations bien plus fortes que celles de la force. C'est vrai, c'est, au fond, il y avait quelqu'un qui une fois m'avait recommandé quand j'avais commencé mes cours. On a un petit peu d'agressivité. Bon, c'est parfaitement vrai. Hein? Vous voyez, mais ce n'est pas la méthode évangélique. Hein? Ce n'est pas la méthode de la Pentecôte. Il y a eu un grand vent à la Pentecôte, mais ça n'est pas comme ça que ça s'est achevé. Vous voyez, il n'y a que l'amour infini qui peut être encore plus inspirateur. Hein? Vous voyez. Et là, actuellement, je pense que c'est le grand dilemme. Le monde, certes, a besoin d'inspirateurs plus que jamais. Vous voyez, comme les hommes disaient bien au moment des deux conclaves, mais au fond, après tout, l'Église elle nous donne une sorte d'expert de leçon. Parce que nos diplomates, nos hommes de gouvernement, ils manquent d'imagination. Et l'Église semble avoir une imagination extraordinaire dans le choix de ses papes. Hein? Oui, mais on ne peut pas avoir une imagination d'amour maintenant. Hein? Vous voyez, en fait, il n'y a que les saints qui seront capables de trouver les moyens pacifiques, oui, d'enthousiasmer les gens, de faire renaître une espérance, mais sans catastrophe. Vous voyez, pensez un petit peu. On peut discuter sur Napoléon. N'est-ce pas? Est-ce que ça a été un grand homme? Est-ce que ça a été... Enfin, quelle a été l'œuvre de Napoléon? Vous voyez? Mais il est certain qu'à notre époque, il ne faut pas souhaiter à Napoléon. Hein? Vous voyez? Parce qu'il y a un nouveau Napoléon qui viendrait comme Napoléon. N'est-ce pas? Au fond, il serait très tenté d'utiliser l'énergie atomique. Hein? Au fond, pour réaliser ses œuvres. Vous voyez? Ce n'est pas un militaire qui est nécessaire maintenant. Vous voyez, au fond, et alors, ce n'est même pas. Et alors, on voit que les hommes de gouvernement, n'est-ce pas, au fond, il ne leur suffit pas de la prudence humaine. Vous voyez, vraiment, on a besoin du don de sagesse plus que jamais. Vous voyez, bon. Alors, c'est à cette lumière, vous voyez, qu'il me semble qu'il faut que nous tâchions de vivre ce mystère de la Sainte Trinité. Vous voyez, alors, étant donné que tout cet univers nous apparaît comme être fait avant tout pour le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas étonnés que dans les temps, dès le début, quand Dieu s'est révélé aux hommes, dans les religions primitives, certes, il a toujours été présenté comme le Père des Lumières, hein, comme l'explicateur du ciel. Bon, mais en même temps, et encore plus profondément, comme l'Esprit. Vous voyez, comme l'Esprit, et l'Esprit qui... au plus intime de nous-mêmes. Vous voyez, au fond, les deux noms, si vous voulez, tout primitifs, hein, de Dieu, et en réalité, c'est plus comme esprit, c'était ce qu'il y avait encore plus de fécond. Et vous voyez ça chez les tout petits enfants. Ce sont les tout petits enfants qui, Jésus nous a dit, revenez comme des petits enfants. Hein, c'est eux qui nous donnent la lumière. Vous voyez, un tout petit enfant. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos de la connaissance du cœur. Dans les premiers noms que sa maman, son papa, sa maman, les premiers noms qu'il apprend, c'est les noms de personne. Père, maman, d'abord, et puis père, vous voyez, parce que sa maman, c'est son espérance. Bon. Et puis quand elle commence à lui apprendre des noms, les premiers noms qu'il doit lui apprendre, c'est le ciel et la terre. Hein? Et le ciel, quand on voit son tout petit, regardez comme il garde la lumière, comme il garde le feu, il arrive, il regarde, et il est intrigué par ça. Oui, la terre, ben, il peut encore mettre ses pieds sur la terre. La terre, c'est une certaine explication, mais le ciel, il n'arrive pas à le prendre. Et pourtant, il sent très bien que, au fond, il a toute sa respiration, sa vie, elle vient du ciel. Lui qui commence à avoir une conscience humaine avant d'avoir des concepts, avant d'avoir une imagination. Ben, lui qui a un tout petit corps, ben, mais qui naît avec une chair si délicate, ben, mais qui a la conscience d'être beaucoup plus que nous. Oui, nos vieux corps, tout usés, tout. Au fond, on a beaucoup de difficultés. Il faut que le Saint-Esprit soit là très fort pour qu'il reste un petit peu un petit peu transparent au Saint-Esprit. Il faut de grandes grâces de Dieu au plan mystique pour que nos corps retrouvent une légèreté. Bien, ils sont lourds, ils sont cassés. Mais regardez ce tout petit corps de l'enfant. Voyez, dans sa première connaissance, au fond, la respiration, ça joue un rôle considérable. Vous voyez, s'il n'y a que tout de suite, on va lui apprendre le ciel comme la demeure du Père. Mais tout de suite, ce tout petit enfant, il a besoin de savoir que le Père, c'est un Père d'amour. Bon, un père qui n'y a à sa maman. Vous voyez, et moi, ça me frappe toujours avec nos handicapés mentaux. C'est très, très sensible. Mais que le tout petit connaît très bien ce que c'est que le cœur. Ben, et quand on veut lui faire comprendre ce que c'est que le bon Dieu, ben, c'est par le point de vue du cœur et de l'amour. Le tout petit sait très bien que sa maman peut n'être pas là, il peut ne pas la voir, il peut ne pas la toucher, et cependant, il peut continuer à l'aimer. Et on lui dit très bien, mais c'est parce que tu as un cœur. Et le cœur, il aime, et le cœur, il dépasse. Donc, vous voyez, en fait, c'est la révélation de l'Esprit-Saint. Et quand nous regardons un petit peu à la lumière, vous voyez, de tout ce que je vous ai dit, les toutes révélations primitives, vous voyez, dans cet art de Dieu extraordinaire, vous voyez, ou dans la relation primitive, il va faire connaître la nature, mais où le ciel joue un très grand rôle, le ciel et la terre, vous voyez, avec les étoiles, avec le soleil, tout cela, vous voyez, mais le souffle, l'air et le feu. Vous voyez, je trouve ça les premiers, dans toutes les philosophies, on trouve les premiers. C'est comme les deux premières révélations que Dieu fait. Vous voyez, et dans les révélations primitives, toujours, l'air, ce souffle qui apparaîtra comme l'haleine de Dieu, le souffle de Dieu. Et puis en même temps, le feu qui apparaîtra comme un don de Dieu. Au fond, en réalité, notre univers, prenez la science, les dernières données de la science, au fond, oui, elle reconnaît que l'air, si vous ne prenez pas simplement l'air qu'on respire, mais que les cosmonautes nous ont fait comprendre que même quand l'air n'est plus respirable, on peut flotter encore dans cet air. Donc, comme ça justifie pleinement ce que Aristote disait, qu'il n'y a pas de vide, mais que la matière telle que l'art de Dieu l'a faite, c'est pas simplement une matière solide, c'est pas simplement une matière liquide. Cette matière éthérée, c'est comme ce secret de l'art de Dieu extraordinaire. Vous voyez quand, au fond, quand les hommes, ils arrivent à vicier l'air, mais ils n'arrivent pas à faire un air plus pur que l'air. Oui, ils arrivent à composer des gaz qui peuvent asphyxier les hommes. Bon, mais ils n'arrivent pas à nous donner un air supra-air, en quelque sorte. Vous voyez qu'il soit, au fond, qui nous révèle quelque chose de plus encore, d'intimité, d'universalité. Vous voyez, alors, vous voyez comment, dès les révélations primitives, vous voyez, on trouve le Saint-Esprit révélé dans ces grandes dispositions de la nature, amène au point de vue de l'air et du feu. Vous voyez? Bon, et alors, d'abord, le ciel. Mais alors, ce qu'il faut, très important de noter dès le début, c'est que dans l'art de l'Esprit-Saint, et dans la manière dont l'Esprit-Saint se révèle à nous, toujours, vous voyez, c'est toujours sous la manière d'unir. Vous voyez, vous pouvez traduire différemment les données de la Genèse. Dieu crée le ciel et la terre. Vous voyez, vous pouvez dire qu'il sépare le ciel et la terre. Vous pouvez dire qu'il partage le ciel et la terre. Vous voyez, au fond, et en fait, quand vous parlez à un tout petit enfant du ciel, mais c'est en liaison avec la terre. Vous voyez, et ça, c'est le grand sens de la connaissance religieuse, c'est que la connaissance religieuse réunit toujours. Il montre que Dieu a créé des réalités que l'homme peut opposer, mais parce qu'il ne se dit pas ce qu'il y a de plus profond dans ces réalités. Parce que plus profondément, elles s'attirent. Vous voyez ? Moi, j'ai toujours regretté que les théologiens n'aient pas senti davantage, vous voyez, tout ce que les découvertes de Newton avaient d'extraordinaire, vous voyez, en remplaçant à ces jeux de force de la cause efficiente, qu'on prend dans toutes les cosmogonies de l'ancien, de, au fond, des philosophes de l'Antiquité. Vous voyez, il y a quatre causes. Bon, c'est la cause efficiente, au fond, qui était celle qui apparaissait la plus puissante. Vous voyez, où on découvrait qu'il y avait une attirance. Vous voyez, Saint Bonaventure, Saint Thomas d'Aquin. Saint Bonaventure avait déjà trouvé, faisait déjà la comparaison dans ses œuvres. N'est-ce pas ? De dire, mais c'est curieux, l'amour de Dieu qu'il donne à nous, il est à la fois feu, lumière et force en même temps. Un petit peu comme la lumière du soleil, qu'on met au fond la foi, oui, on a l'énergie, on a la lumière et on a le feu. Trois données différentes. Bon, là, vous voyez pour la première. Dès que Abraham va apparaître, on va avoir des religions prophétiques. Oui. Alors, par quoi vont se caractériser ces religions prophétiques ? Oui, si on les prend simplement dans l'ensemble à partir de l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est qu'on voit qu'il y a des hommes inspirés par Dieu, qui ont une lumière intérieure, qui vient de Dieu, voyez, qui donnent des paroles objectives, qui vont nous révéler la signification qui dépasse la nature de certains faits pris dans la vie humaine. Vous voyez, et en particulier, quand vous regardez, quand vous lisez Abraham et tout le reste, Dieu qui prend des événements qui apparaîtraient accidentels pour les hommes. N'est-ce pas ? Le pauvre Abraham, qui, au fond, qui a une femme stérile. Vous voyez, Abraham qui, au fond, avec son neveu Lot, avant même, au fond, et puis il y a des disputes entre les bergers. Vous voyez, bon, donc, ça part à partir de faits accidentels, ou même de faits qui apparaîtraient venir plutôt de ce qui ne marche pas. Et puis que Dieu, dans sa sagesse, au fond, montre comment ces faits peuvent avoir une signification qui dépasse la nature. Vous voyez ? Et que dans cette révélation, on voit ce rôle considérable qu'ont des personnes. Et moi, je vous avoue que dans toute la lecture de l'Ancien Testament, je suis de plus en plus frappé de la personne d'Abraham. Vous voyez ? Parce que, vous voyez, c'est extraordinaire. Vous voyez, Abraham, tel qu'il est présenté dans l'Écriture, c'est une figure sans... Il n'y a pas de faute, en quelque sorte. Tout ce qui est mis en avant, c'est un homme qui répond pleinement à toutes les destinées de Dieu. Vous voyez, et qui, à un temps, 2000 ans avant la venue de notre Seigneur, dans une petite peuplade, au fond, de gens très primitifs, d'Abraham, au fond, vous voyez, quand on compare avec nos... C'est un bédouin, si vous voulez, vous voyez, mais qui montre en même temps un sens intérieur, non seulement moral, mais un sens de l'amour extraordinaire. Vous voyez, moi, ça me frappe toujours quand nous, dans nos pays de l'Oise, un pays de culture industrialisée, loin nos gros propriétaires de l'Oise, les grosses fermes de 200-300 hectares, très industrialisées. De voir combien ces gens, qui même du XXe siècle, comme ils ont de la difficulté, quand ils font la part d'héritage dans leur testament, au fond, de ne pas toujours chercher l'intérêt. Vous voyez, voir combien dans ces familles, c'est arrivé de fois, par exemple, où au fond, on a limité les naissances, pour qu'en fait, la ferme devienne plus puissante. Si on avait eu 10 enfants, on serait partagé. Vous voyez ? Et puis quand on voit ce bédouin d'Abraham, le pauvre, cet homme qui, au fond, va commencer à dire à l'autre, commence à choisir. Choisis les meilleures terres, toi. C'était son neveu, simplement. Puis moi, je prendrai le reste. Et puis, Dieu frappé par cet acte, cet amour pour la pauvreté. Ça, la première bénédiction qui va arriver à Abraham, ça va venir de là. Au fond, de ce que cet homme n'a pas été attaché, il a mis plus de prix à la paix, même s'il fallait sacrifier la richesse, à la paix entre un oncle et son neveu. C'est très rare, vous savez, dans notre monde actuel, que vous ayez des gens très puissants qui savent faire des sacrifices comme ça pour la paix. Vous voyez, alors quand on continue cette vie d'Abraham, vous voyez, on voit toute la vie d'Abraham, sa foi, Ben, quand Dieu lui promet un enfant. Et puis peut-être ce qui est le plus extraordinaire, l'épreuve d'Isaac. Est-ce que vous avez essayé quelquefois de la comprendre un petit peu à la lumière de toutes les données actuelles? Vous voyez, les théologiens du Moyen Âge, ils aimaient beaucoup, saint Thomas, montrer que Abraham, quand Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils, hein, il avait eu vraiment l'intention de sacrifier son fils. C'est pour ça qu'il disait qu'il n'y a que l'Esprit Saint qui peut intervenir, parce que deux fois un père sacrifie son fils, au fond, c'est contre nature. N'est-ce pas? Et pourtant, Abraham a eu vraiment l'intention. Et en bon moraliste, saint Thomas dit, un péché, au fond, se définit par l'intention. Pour que ce soit un péché, pas un péché, il faut alors un acte héroïque, un acte de sainteté. Mais pensez à la lumière de tout ce que notre monde moderne a mis en lumière. Quel est le père, n'est-ce pas, qui aurait l'intention de sacrifier son fils, et que le fils s'en rendrait compte, il transporte le bois du pape, et puis qu'on dirait, mais la confiance va être finie entre ce père et ce fils. Où est la merveille? C'est qu'on voit que tous les deux, menés par l'Esprit Saint, ça les fait découvrir un Dieu de providence qui s'occupe des hommes avec un soin extraordinaire. Un Dieu qui entre dans la vie des hommes. Il n'est pas simplement législateur des hommes à partir de leur nature, mais un Dieu ami, un Dieu qui intervient au fond dans tous ces actes tout à fait contingents. Vous voyez, que la vie familiale, c'est fait de ce quotidien, ces choses imprévues, au fond, c'est bon. Et puis, que c'est là que Dieu veut nous sanctifier. Et si vous prenez toute l'histoire d'Israël, toute l'histoire d'Abraham, il faut trouver sous cette manière. Bon. Et alors, ça vous fait découvrir. Quand, à la lumière de Vatican II, vous voyez, vous reprenez toute cette histoire du salut. On dit, au fond, après toute l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de salut. Donc, c'est une histoire qui doit se mettre à la lumière des vertus théologales. Et on voit très bien dans toutes les religions primitives, tout est autour d'un Dieu de justice, mais qui s'est déjà présenté comme un Dieu de foi, vous voyez, et d'espérance. Saint Paul nous montre très bien que au fond, pour être sauvé, il faut moins croire à un Dieu qui rétribue les actes justes après la mort. Vous voyez, donc, ça implique l'espérance. Mais une espérance qui est toute réglée sur la foi, quelque sorte. Vous voyez qu'il n'y a pas, au fond, ça paraît l'histoire, peut-être un continuel recommencement. On reste au stade, en quelque sorte, que les hommes doivent observer la justice, le faire en obéissant, au fond, dès qu'ils commencent tout petit à leurs parents, donc attacher une grande importance aux traditions. Mais c'est bien la foi. Vous voyez, les religions primitives, la foi en Dieu, en un Dieu créateur, en un Dieu providence. Vous voyez, et qui pourra leur appliquer, comme nous le voyons maintenant, par exemple, aux Indes, va appliquer une mystique qui va jusqu'à, au fond, une expérience de cette immensité, de cette présence de Dieu en nous. Avec Abraham. Alors, c'est la promesse. C'est la vertu d'espérance qu'il a tout à fait au cœur. Vous voyez? Et alors, quand vous regardez toute l'histoire d'Israël, vous voyez, cette histoire, au fond, d'un peuple, vous voyez, qui est prophète, d'un peuple prophétique, vous voyez, mais de cette prophétie de Dieu, où Dieu utilise sur des personnes ont un rôle considérable, mais tant que c'est des prophètes, les personnes sont au service d'une communauté. Non pas des personnes autodidactes, mais des personnes qui rentrent dans une tradition, et puis qui se mettent au service d'une communauté. Et on voit alors dans cette histoire extraordinaire, avec les patriarches, puis avec les juges, et puis que c'est à regret que Dieu donne ses rois. Mais ils accordent, au fond, parce que ce peuple, par miséricorde pour eux, mais il n'y en a que quelques-uns qui sont vraiment des figures de Dieu. Tout de suite après, c'est là. Au fond, à cause de ces rois, à cause de leur faste, même chez Salomon, qui est pourtant un sommet, Bon, on voit toute cette influence, au fond, des concubines qui, au fond, amènent les jalousies, ainsi de suite, tout ce qui arrive dans l'histoire. Bon. Et puis les prophètes, ben, qui, au fond, commencent à venir jouer leur rôle plaigné de prophètes, ben, quand le pays est en déposition, au moment des guerres, au moment des souffrances. Bon. Mais ces prophètes, qui ne sont jamais des prophètes de malheur, ben, très réalistes, mais qui toujours appellent une espérance. Sont essentiellement les prophètes de l'espérance. Bon. Et puis, notre Seigneur qui va venir, à une époque où il semble qu'il n'y a plus de prophètes, à une époque où en fait il y a quelques-uns, oui, il y a le vieillard Siméon, il y a la prophétesse Anne, bon. Il y a les parents Zacharie, il y en a quelques-uns, comme ça, quelques vieux, quelques anciens, au fond, qui croient. Bon. Bon. Et puis, le troisième, l'avenue de notre Seigneur. Bon. Vous voyez ? Alors, avec l'avenue de notre Seigneur, vous voyez, ça va être l'âge de l'amour par excellence. Vous voyez, c'est la religion de l'amour. Hein? Alors, qu'est-ce qui est extraordinaire, hein? Ça commence avant même l'avenue de notre Seigneur, avec Marie. Hein? Vous voyez, tout le mystère de Marie. Vous voyez, l'Immaculée Conception. Vous voyez, bon. Alors, avec Marie, et qui va être tout de suite, dès le premier instant de sa conception, mais qui vient achever l'âge des patriarches. Parce que ce que le père Kolb a dit, je trouve, sur l'Immaculée Conception et le lien avec le Saint-Esprit, ils vont très loin. Mais je pense que c'est très très intéressant de tâcher de le prolonger, de l'expliciter théologiquement, vous voyez, avec tout ce que nous savons sur l'Ancien Testament, la théologie de l'Ancien Testament, et au fond tout ce que saint Thomas disait aussi à propos de la justice originale. Vous voyez, au fond, quand nous regardons cette histoire des patriarches commence avec Abraham. Vous voyez, le dernier couple des patriarches qui va être extraordinaire, c'est Anne et Joachim. Vous voyez, au fond, alors Anne et Joachim, il semble, dans l'écriture, on ne nous parle pas de miracle. Bon, il semble qu'il y a un mariage normal. C'est pas quand Anne et Joachim sont vieux, on ne le dit pas. On ne le dit pas. Dans l'écriture, ça paraît normal. Vous voyez, mais ça devient tout à fait extraordinaire. C'est que cette conception d'Anne et de Joachim, elle s'achève à une conception qui va être immaculée. Au fond, avec Marie. Hein? Et encore une fois, vous voyez, c'est au point de vue mystique qu'il faut se placer tout de suite, et qui semble que c'est comme normal. Vous voyez? Donc on voit qu'Anne et Joachim, au fond, c'est le couple, vous voyez, c'est l'exemple de la famille, ben, où les desseins de Dieu, quand il a créé l'homme, comme notre pape nous le rappelle sans cesse, homme et femme, ben, en vue de la génération, mais d'une génération qui suppose union conjugale. Et donc, c'est le couple en quelque sorte, qui, à la suite, après toutes les épreuves, par toute l'éducation au fond, que déjà le peuple juif donnait si forte, d'arriver à se purifier, lâcher, au fond, et puis voilà que cette union, pour le terme de cette union, ça va être cette toute petite Marie, va être conçue immaculée, bon, mais alors avec un corps d'une pureté extraordinaire. Vous voyez, alors voilà, les vues de Dieu. Vous voyez que saint Thomas a précisé qu'il aurait été dans la justice originale. Il y a une exception. Une exception pour Marie, dans la manière dont elle est conçue. Non pas au plan naturel, mais au plan d'amour. Que c'est Joachim et Anne, il y aura une grâce extraordinaire. Parce qu'ils semblent tout à fait normal. Et puis pour élever Marie. Parce que, alors avec Marie. Voilà toute l'histoire de l'humanité qui est reprise par Dieu. Parce que le grand mystère de Marie, pourquoi la théologie mariale est tellement importante au point de vue spirituel. Avec Marie, ça, c'est la seule sainte dont nous sommes absolument sûrs, vous voyez, que dès le début, dès sa naissance, elle est la rose mystique. Vous voyez, il faut l'expliquer par la vie mystique. Vous voyez. D'où Marie a été la seule sainte dont nous sommes sûrs, vous voyez, quand elle a été nourrie par Anne, hein, mais par une grâce du Saint-Esprit qui était en elle, hein, tout de suite, Anne a été comme le signe et l'instrument de Dieu. Elle a aimé son Dieu plus qu'Abel. Elle a aimé son Dieu comme une mère. Voilà le mot de Tertullien. Marie ne connaissait pas encore d'une façon explicite la personne du Saint-Esprit, mais elle aimait son Dieu comme une mère, au fond, cet amour extraordinaire. Et au fond, quand vous regardez ce que Saint Jean de la Croix dit à propos de l'expérience mystique, on voit très bien que cette toute petite Marie, elle n'avait pas besoin de connaître le Saint-Esprit, pouvait très bien, comme on peut pour les grabataires, pouvait très bien donner à cette toute petite Marie la présence de l'Esprit-Saint est beaucoup plus forte que la présence d'âme. Mais en même temps, en aimant très fort sa maman, comme aucune créature n'avait aimé sa maman. Et en même temps, aimant, découvrant la nature, le ciel, comme la demeure du Père. Donc, d'où revivant toutes les mystiques naturelles dans sa toute petite enfance, comme elle va revivre, avoir toute l'histoire du salut de l'Ancien Testament, au fond, avec ce que Anne, ce que Joachim lui apprennent. Parce que saint Thomas a une donnée très très forte. Saint Thomas dit toujours que pour Marie, Dieu semble avoir fait les miracles, le moins de miracles possible. Marie a été comblée de grâce de l'Esprit-Saint, mais pas sous l'aspect miraculeux. Vous voyez, et ça explique très bien la peur de Marie au moment de l'Annonciation. Parce que les anges n'intervenaient pas avant. C'était Anne, c'était Joachim, c'était au fond les anciens. Et Marie, intérieurement, par cette lumière, vous voyez, au fond la révélation implique une donnée objective et puis une lumière intérieure. Et c'est cette lumière intérieure, chez tous les mystiques, au fond, qui apparaît ce qui est le plus important. Parce que sans cette lumière intérieure, on ne peut pas comprendre le sens de ces paroles. Et Marie, de fait, allait plus loin. Quand elle disait Isaïe, tout ça, elle voyait les choses beaucoup plus loin. Et puis alors, avec la vie de Marie, après, l'Ancien Testament, vous voyez, si on veut voir où s'achève l'Ancien Testament, vous voyez, les sommets de l'Ancien Testament, vous voyez, on a Anne et Joachim, ces vrais fils d'Abraham, Marie, toute petite Marie, et puis Joseph comme fiancé, vous voyez, là, voilà les sommets au fond de l'Ancien Testament. Et puis, Marie, après avoir été fiancée à Joseph, mais comme le dit saint Augustin, dans le but, au fond, de garder sa virginité, sentant que, avant tout, elle avait à préparer, peut-être qu'elle avait lu, elle avait sûrement lu les textes d'Isaïe, peut-être même qu'elle voyait qu'ils étaient pour elle aussi, mais pour elle, le Messie, vous voyez, Marie n'a jamais... L'imagination de Marie n'a jamais fonctionné. C'est par là que Marie n'a pas eu de péché, ses petits péchés. Vous voyez, elle a toujours été au service du Saint-Esprit. Donc Marie n'a pas fait de petites hypothèses. Ah tiens, après tout. Marie n'a jamais été curieuse. C'est ça que c'est la grande qualité de Marie. Mais c'est une docilité au Saint-Esprit qu'elle a eu des intuitions extraordinaires, mais dans l'Esprit Saint. Elle a compris l'Ancien Testament comme personne d'entre nous. Mais dans l'Esprit Saint. Alors, au fond, Marie, elle devait se dire, mais le Messie, c'est comme Élie est d'un revenir. Le Messie, donc, il reviendra sans doute à l'âge adulte. Elle ne pouvait pas imaginer que le Messie reviendrait comme un tout petit enfant dans son sein. Et que c'était par la virginité, par la maternité spirituelle, au fond, qu'elle avait hâté cette venue du Messie, qui viendrait dans le feu. Alors, on comprend toute l'épreuve de Marie à l'Annonciation. Je pense que dans la fête de la Pentecôte, il faut bien que nous voyons, c'est le jour de l'Annonciation que pour la première fois, le Saint-Esprit a été révélé à une créature humaine, révélé à Marie. Vous voyez, mais c'est tellement doux de voir, vous voyez, que le Saint-Esprit lui a été révélé, vous voyez, dans un amour de feu. Vous voyez, au fond, comme cette pointe de feu, en quelque sorte, du Saint-Esprit, mais en même temps dans une obscurité, dans le minuit de la foi. Marie ne pouvant d'aucune manière se représenter ce fils de Dieu. Donc il lui a été donné comme enfant. Et en même temps dans une attitude d'espérance, de faiblesse et de mort. Ce qui est admirable dans l'Annonciation, c'est que l'ange ne commence pas par dire à Marie, lui donner un programme de vie. Tout de suite, l'ange lui demande, alors, d'être la mère de Dieu, mais sans savoir du tout comment ça va se réaliser. Oui, est-ce qu'elle va être lapidée? Est-ce qu'elle va être... Et puis cet enfant sera sauvé? Est-ce que c'est le martyr qu'on lui demande? Le martyr l'attire, ça c'est évident. Parce que Marie devait tant aimer la mère des Maccabées. Bon, mais c'est dans l'obscurité la plus grande de la foi. C'est pas au Tabor, hein, c'est pas du tout un Tabor l'Annonciation. Dans le plus secret. Et c'est ce tout petit Jésus qui va lui faire découvrir le Père et le Saint-Esprit. Vous voyez? Mais il fallait que Marie soit immaculée pour que le Saint-Esprit puisse, le mystère de la Sainte Trinité puisse lui être révélé, vous voyez, dans une simplicité si grande. Alors là, c'est vrai, tout le mystère de la nature humaine. Vous voyez? Alors, c'est là qu'on comprend très bien que l'homme esprit, il ne faut pas le prendre comme esprit, comme intelligence d'abord, mais au point de vue de l'amour. Vous voyez? Alors ça éclaire tout. Au fond, vous voyez tout ce rôle du Saint-Esprit dans les religions primitives, vous voyez, toujours l'inspiration, vous voyez, dans la prophétie, tout ce rôle à la voix de la révélation et de cette inspiration intérieure qui est donnée. Oui. Bon. Et puis, Marie va vivre d'abord toute la vie cachée. Hein? L'enfance et l'adolescence. Parce que le mystère du recouvrement au temple a toute une signification. On fait ce passage des deux. Hein? Et puis Jésus va commencer sa vie publique à 30 ans. Quand en quelque sorte, Jésus a eu toute la plénitude. Marie a connu toute la vie de Jésus dans sa plénitude. Et puis, Jésus mène sa vie. Marie reste dans l'obscurité. Elle se retrouve au moment de la croix. Alors, de fait, Jésus va nous sauver par son sacrifice. C'est ça qui est au fond, c'est... Jésus ne vient pas nous sauver d'abord par sa parole, Jésus vient nous sauver avant tout par son sacrifice. Mais nous sauvant par son sacrifice, et voulant en quelque sorte, dans un dessein de Dieu tout à fait mystérieux et plein de miséricorde pour l'homme, qui est tout de même toute une génération qui suit, qui a appliqué les mérites de sa rédemption. Les mérites de son sacrifice. Oui. Jésus, en même temps qu'il apporte une grâce, qui vient réparer tous les péchés, qui vient en même temps donner à l'humanité son sommet. Oui. Parce que c'est là, je crois, pour moi, ça m'apparaît tellement mystérieux. Vous voyez, c'est que l'humanité, telle que Dieu l'avait fait au plan naturel, en un sens, la femme comme mère, enfin, telle qu'elle était au plus près de Dieu. Hein? Vous voyez. Mais une fois que l'homme, qui avait un rôle au fond, qui devait être au service finalement de la femme, même dans l'état de justice originelle, et qui avait bien son rôle de père, le premier, Adam, il a péché. Alors de fait, vous voyez, cette humanité pécheresse ne va pouvoir être sauvée, vous voyez, d'une façon, je dirais, normale, si on peut dire, vous voyez, par un sacrifice. Au fond, qu'il ne soit pas un miracle. Vous voyez, un sacrifice qui satisfasse pleinement la justice de Dieu en même temps que l'amour. Il n'y avait que le Fils de Dieu qui pouvait vivre. Une simple créature ne pouvait pas. Vous voyez, le sacrifice de Jésus a une valeur rédemptrice comme Fils de Dieu. Vous voyez, le péché a un mal infini dans son intention. Il n'y a que le Fils de Dieu qui peut poser un acte positif qui dépassent et qui sont en même temps humains. Hein? Vous voyez? Bon. Alors, ce Fils de Dieu, vous voyez, qui vient achever l'univers, mais qui vient l'achever l'univers, non, comme prêtre, comme victime. Hein? En fait, l'univers tel qu'il est, cet univers de foi et d'espérance, tel que Dieu l'a voulu pour l'épreuve, le Fils de Dieu ne peut pas être roi dans cet univers tel qu'il est. Il ne peut l'être que par moments. Hein? Vous voyez? Il faudra son retour. Aura cet univers, les cieux nouveaux et terre nouvelle. Mais d'autre part, Marie peut être parfaitement mère. Elle peut être pleinement mère. Alors Jésus va vouloir établir une église, vous voyez, qui va avoir, qui va. Alors, c'est avec l'ascension, vous voyez, que commencent les derniers temps. au sens strict du mot. Quand Jésus a achevé son œuvre, qu'il est remonté près du Père, hein, vous voyez, il y a ce temps d'arrêt, en quelque sorte, hein, avant que le Saint-Esprit ne vienne. Hein, et avec le Saint-Esprit, c'est le dernier temps, hein, au plan de l'Écriture, vous voyez, qui commence. Alors, le mystère de cette Église, c'est que cette Église va avoir appliqué les mérites de Jésus. Hein, vous voyez, c'est des hommes qui vont l'avoir à la joie. Alors, c'est ici, vous voyez, que les sacrements dans l'Église jouent un rôle extraordinaire. Vous allez bien comprendre. Vous voyez, dans la révélation prophétique, hein, on trouve déjà les deux aspects de la révélation que tous les exégètes mettent très fort en lumière. Hein, l'aspect de révélation, c'est-à-dire une lumière qui est donnée objective, de fait qu'on ne peut pas établir par la raison, hein, le prophète se servant de paroles, d'un langage humain, de gestes humains, mais pour signifier des données qui dépassent. Alors, pour que ce message révélé puisse être admis, il faut qu'il y ait à l'intérieur une inspiration d'amour qui donne une lumière intérieure. Il faut que le prophète, d'abord lui-même, soit tellement pris par Dieu, vous voyez, que cette révélation si extraordinaire au plan de son intelligence, au plan de son esprit, qu'il ne peut pas comprendre, vous voyez, pour elle, il est l'évidence, mais c'est sûr. Mais c'est sûr par cette force intérieure d'amour, c'est l'amour qui unit, au fond, ces différentes paroles. C'est l'amour qui unit à ces paroles des gestes. Vous voyez, bon, alors ça, déjà, dans l'Ancien Testament, on a tout cet aspect. Ce qui est tout à fait nouveau dans la religion de notre Seigneur. Vous voyez, ça c'est très très important, je pense, pour nous préparer même à l'avenir du pape. Vous voyez, c'est que Jésus, comme fils de Dieu, et en même temps fils de l'homme, vous voyez, va établir des institutions, vous voyez, des institutions de droit positif, vous voyez, comme sont les sacrements. On vient avec des institutions, c'est des rites établis par Jésus. Et donc on peut considérer simplement comme des rites sacrés. Verser de l'eau sur le front de quelqu'un en disant une parole, c'est ça. Vous voyez, au fond, les sept sacrements, on retrouve. Bon. Mais par le fait que ce fils de Dieu, que Jésus est fils de Dieu, il peut donner la promesse du Saint-Esprit que chaque fois que ces gestes seront faits, le Saint-Esprit se donnera. Donc, que dans cette église nouvelle, vous voyez, cette église ne va pas simplement être une communauté, comme il y avait des communautés autour de tous les prophètes. Pas, elle va pouvoir être une vraie société, voyez, dans le sens qu'elle a une hiérarchie, voyez, dans le sens qu'elle a des rites visibles. Voyez, et elle va pouvoir être une société qui va à la fois avoir, par ses signes, exprimé déjà le ciel, la cité céleste, la Jérusalem nouvelle. Vous voyez, bon. Et puis qui en même temps sont tellement simples, parce que Jésus va prendre ses réalités tout humbles, bon, que tout homme vivant connaît, hein, pour établir une société universelle. Vous alors, vous voyez dans cette église, qu'est-ce qui va être important? Vous notez comme tout à fait nouveau, il n'y avait pas dans l'Ancien Testament, hein, vous voyez, les sacrements. C'est-à-dire des signes d'amour très simples, mais qui sont signes d'une grâce sanctifiante, bon, qui sanctifie chaque personne, qui fait de cette personne fils de Dieu, qui commençait déjà la vie éternelle. Bon. En même temps qu'il y aura ces sacrements, il va y avoir des ministres de pauvres hommes choisis, bon, mais qui, quand ils font ces actes, sont ces ministres. C'est-à-dire le mot ministre dans le sens de l'Église, c'est-à-dire un instrument conscient et aimant, hein, d'une œuvre divine, qui refait un geste de Jésus, au fond, et qui sait qu'il y a conscience qu'il le fait dans la foi, mais qu'en même temps ce geste, au fond, a un dessein divin qui dépasse. Avec les ministres, alors le pape, la papauté, hein, parce que comme ces gestes qu'il faut faire, ce sont des gestes de foi, des gestes d'espérance. Il faut qu'il y ait une certitude. Il faut que cette foi, cette espérance, elle s'enracine dans la vie. Alors, Jésus a établi à la tête de ses apôtres un humble et pauvre vicaire, mais qui est immédiatement en relation avec lui, et qui peut de façon vivante, à toutes les époques, Bon, présenter ces données de la foi, surtout pour les pauvres et les petits, ceux qui ne sont pas capables de lire des livres. Bon, au fond, et ceux qui sont en temps capables d'entendre la parole. Bon, et puis qui va pouvoir en même temps, parce que cette Église, Jésus l'a voulu, comme une société, mais une société qui n'a pas à s'occuper des choses temporelles. Une société même que son premier but, ce n'est pas d'établir la justice sur la terre. Une société qui a un rôle avant tout, vous voyez, d'aider le développement des vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité. Une société qui se situe là, c'est pour ça qu'elle est sainte. Hein? Et qui montre que maintenant, c'est ça le plus important. Il y en aura toujours d'autres qui s'occuperont. Maintenant qu'on est dans la plénitude des temps, qu'on est dans les derniers temps. Hein? Bon. Et alors, dans cette société, Jésus établira un magistère, mais qui sera un père. Hein? Vous voyez, qui, au fond, par le fait qu'il va parler, qu'il va pouvoir parler, bon, il peut s'adresser surtout pour ses pauvres et ses petits. Et qui sera en même temps, vous voyez, celui qui sera notre arbitre au plan de la vérité, au plan de la foi, mais qui sera en même temps le pasteur qui conduit. Les petits-enfants, ils ont besoin que leur papa soit là, en même temps celui qui les instruit au plan de la vérité, mais aussi de la vérité pratique, leur dit ce qu'il faut faire. Vous voyez, et puis qui surtout, en même temps, présidera à la charité. Vous voyez, qui sera celui qui a une commission spéciale, par exemple pour les ordres religieux, de reconnaître que leurs lois sont bien. Alors, c'est bien pour tendre vers la perfection. Vous voyez, qui va pouvoir présider à l'Eucharistie. Vous voyez, bon, alors, c'est là le mystère de la parole. Vous voyez, alors vous voyez combien, je pense qu'ici, la grâce de ceux qui vivent ici, hein, moi ça m'a toujours frappé que prennent nos pauvres, vous voyez, moi ils m'ont fait découvrir trois aspects, trois sommets dans ma théologie. Ils m'ont fait comprendre le sens des sacrements. Vous voyez, comme des signes d'amour, parce qu'ils vivent des sacrements beaucoup plus que nous. Le sens de l'Eucharistie en particulier. Vous voyez, comme un cœur à cœur avec le bon Dieu. Les pauvres handicapés mentaux, ils sont encore très près. Ils comprennent le lien entre la nourriture et l'amour, hein, que la plupart des intellectuels ne comprennent plus du tout. Hein. Ils comprennent très bien, au fond, que toute la vie physique, bon, ça peut être qu'un instrument, qu'un signe, bon, une parabole, en quelque sorte, pour avoir une vie beaucoup plus divine. Mais que quand on aime, on a quand même un besoin de se nourrir de celui qu'on aime. Que notre Père peut nous donner comme nourriture le corps de son Fils. Il peut nous donner son sang pour nous abreuver. L'Eucharistie, vous voyez, ça tient une place ici unique. Hein, vous voyez, et ce sont les petits, les pauvres, c'est le pain des pauvres, c'est le pain des petits. Vous voyez, et dans l'Eucharistie, tout est donné. L'instant présent, la présence de Jésus. Et en même temps, son sacrifice, et en même temps, dans la communion, c'est le ciel qui est déjà annoncé. Vous voyez, tout ça est donné. En même temps. Vous voyez, en même temps, Marie. Vous voyez, parce que si Jésus vient apporter une religion d'amour, il faut qu'à côté du nouvel Adam, il y ait une nouvelle Ève. Vous voyez, et qu'il y ait une nouvelle spiritualité qui nous fasse comprendre la place, le mystère de la nature humaine. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu homme et femme? Au point de vue de l'intelligence, ça ne peut pas se comprendre. Au point de vue de l'amour, c'est vrai. Alors Marie aide, c'est de façon extraordinaire. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, avec l'Immaculée Conception et l'Assomption de la Sainte Vierge, on voit que résumé en une vie toute simple qu'on a dans le rosaire, voyez, tout le mystère du salut, tout à fait à la dimension des petits, des pauvres, vous voyez, qui ne peuvent pas être des érudits, qui ne peuvent pas, au fond, aller approfondir toute l'histoire de l'humanité. Mais ils ont tout l'essentiel, là, dans la vie de Marie. Non, avec Jésus. Et c'est bien de façon historique que cela est donné, comme le Saint-Esprit veut, dans sa pédagogie d'amour. Et puis le pape. Mais vous voyez le rôle considérable du pape. Et je crois que pour comprendre la papauté, il faut voir que Dieu l'a voulu avant tout pour notre époque. Non. Vous voyez, moi je dis toujours, au Moyen-Âge, du temps de, ou plutôt au Moyen-Âge, n'est-ce pas, du temps de Sainte-Catherine de Sienne, de Saint-Vincent Ferrier. L'Église a voulu vivre pendant plus d'une année, sans qu'en fait on sache quel était le vrai pape, qu'il y avait des saints qui pensaient que c'était l'un, d'autres pensaient que c'était l'autre. Bon, l'Église a tout de même. Or, si depuis la mort de Paul VI, bon, les cardinaux n'étaient pas encore arrivés à se mettre d'accord pour trouver un pape, je ne sais pas dans quel état serait notre Église. Bon. voyez, au fond, que, mais en même temps, le Saint-Esprit est pour moi. Voyez. Et là, ça nous fait comprendre, pour moi, c'est ce mystère de notre pape actuel. Voyez. Et c'est pour ça que ça me semble tellement important dans sa venue de le considérer un peu. Voyez, que Dieu ait voulu, il est Pierre, ça c'est certain. Hein? Tu es Pierre, tout à fait, c'est le successeur. Mais en même temps, le charisme de Paul, il l'a. Hein? Déjà Paul VI le sentait très fort. Et Python l'avait mis très fort en lumière déjà. Vous voyez, Paul comme législateur, et en même temps Paul comme apôtre. Mais comme apôtre qui veut lui-même aller voir ses communautés. Vous voyez, comme apôtre qui ne veut pas se contenter, au fond, de connaître ses communautés d'après les récits qu'on lui donne, qui n'envoie pas simplement ses noms, et puis qui dans son cabinet, au fond, lit les mais qui veut les connaître lui-même sur place. Ça, c'est le rôle propre de l'apôtre, c'est le charisme de l'apôtre. Vous voyez, et puis qui en même temps est Jean. Parce qu'au fond, il a ce sens de la Sainte Vierge, il ramène sans cesse, et puis du sens de la vie contemplative. Et ben, c'est toujours lui qui rappelle aux religieux et religieuses, et la place qu'il fait à la vie religieuse. Vous voyez, parce que quand on voit l'histoire du monde, vous voyez, le rôle propre de la papauté, concrètement, ça a toujours été de défendre les ordres contemplatifs, les grands ordres. Nos pauvres saisissent très bien la papauté sous ce double aspect. Vous voyez, à la fois celui qui assure la contemplation, et c'est lui qui rappelle tout le temps à ses religieux le premier devoir de l'amour, mais surtout, comme il a dit aux religieuses, supérieure religieuse dès sa nomination, hein, de premières audiences qu'il a eu avec elle, et surtout laissez-vous aimer par Dieu. Hein. On ne cache à personne que, au fond, sa thèse qu'il a fait à l'Angélique, c'était sur Saint Jean de la Croix, hein, sur l'éthique avec Saint Jean de la Croix. Bon, c'est très bien qu'au fond, il a une prédilection pour Saint Jean de la Croix. Vous voyez, s'il va à Lisieux, c'est à la fois pour l'émission et à la fois le rôle de Sainte Thérèse. Et de montrer que dans l'Église actuelle, hein, au fond, dans les mondes déchristianisés, civilisés, il n'y a plus que les contemplatifs mystiques qui peuvent convertir les autres. Hein, parce que c'est plus possible, on ne peut plus arriver à convertir les gens simplement par des raisonnements intellectuels. On ne peut plus les sauver par des œuvres simplement de miséricorde. Parce que bah, les communistes, d'autres en font autant. Hein? Il n'y a plus que cette expérience, vous voyez, divine de Dieu, cette affirmation, vous voyez, que Jésus est une personne, hein? Que Dieu n'est pas un idéal, que Dieu n'est pas simplement une idée, et que ce n'est pas par là qu'on l'atteint, mais que c'est dans une expérience intérieure. Vous voyez, et on sent très bien que notre pape, son but premier, hein? On le redisait hier, il en était très heureux, parce que je m'en doutais bien, hein? Que si Dieu a choisi un pape de Pologne, il ne faut pas que nous oublions que dans notre Europe, puisqu'il rappelle toujours que la Pologne, c'est l'Europe, hein, que dans notre Europe, il n'y a que la Pologne. C'est le seul pays, où si on prend après les statistiques, les vocations, hein, depuis 1939, ont doublé en Pologne. Dans aucun autre pays, les vocations ont augmenté. Bon, mais qu'est-ce qu'il vient nous rappeler? C'est que les institutions divines établies par Jésus, hein, quand les gens sont prêts à se faire persécuter, on ne peut pas les supprimer. Et que la persécution, c'est ça qui développe la religion. Vous voyez? Bon, mais que ce n'est pas la presse, même la presse catholique. Vous voyez? Au fond, c'est un peu le scandale de la France. C'est peut-être, au fond, les livres imprimés, peut-être c'est le plus, c'est des livres, au fond, chrétiens. Mais de voir que le résultat, au fond, est au fond si pauvre, finalement. Hein? Parce que, au fond, c'est ce qu'avec le renouveau, tant de gens ont découvert. On dit, ah ben c'est vrai, par tous nos moyens, tous nos institutions n'arrivons à rien. Bon, ben, peut-être parce que nous oublions le Saint-Esprit. Et qu'au fond, c'est le Saint-Esprit qui doit tout sauver. Vous voyez, ben, on voit très bien notre pape qui vient tout le temps rappeler. Oui? Mais là, vous voyez comme c'est important. Parce que le mystère de l'Église, vous voyez, ça qu'il faut tellement retenir. Oui. Le mystère de l'Église, c'est que cette Église qui nous donne une grâce sanctifiante, vous voyez, qui nous mène, qui fait que tous nous sommes appelés à une expérience mystique. Ce n'est plus réservé à quelques-uns. Hein, et que ce sont les plus pauvres, les plus petits qui peuvent avoir cette connaissance intime, personnelle de Dieu. Mais qu'en même temps, hein, vous voyez, surtout pour ces pauvres et ces petits, Ben, c'est dans une société qu'il le trouve. Et donc, qui nous met en garde. Voyez, de ne pas vouloir être cette sorte de mystique, bon, qui se retire dans leur tour d'ivoire, voyez, bon, mais de sentir que comme ça a toujours été dans l'Église catholique, ce sont les mystiques qui ont le plus aimé le pape, ce sont les mystiques qui ont été toujours le plus attachés à l'Église, voyez, et de sentir que c'est ça le mystère de l'Église, voyez, c'est qu'à la fois cette Église apporte une grâce sanctifiante, voyez, qui permet que la vie mystique des pauvres, des petits, des malades, au fond, et qu'il n'y ait pas simplement des gens bien nés, comme le pensaient un petit peu les orientaux, hein, mais qu'en même temps, cette vie mystique, elle est visible par des institutions, mais divines, voulues par Jésus, vous voyez, par une société, mais qui a été voulue par Dieu, avant tout pour les pauvres, pour les petits. Non, c'est la seule société de l'Église. C'est la seule société. Vous voyez, moi, c'est ce qui m'a toujours frappé personnellement et un petit peu autour de moi. C'est la seule société où les fonctionnaires sacrés de cette société, vous voyez, quand ils comprennent que le Saint-Esprit leur donne une grâce particulière, personnelle, pour que les fonctions essentielles pour eux, comme les sacrements, comme la prédication qui prépare les sacrements, ou bien le rôle de pasteur comme les évêques, le rôle du pape, que ces rôles, quand on tâche de les accomplir pleinement, ces fonctions sacrées, pas qu'ils nous mettent au service de toute l'Église, ils font que n'importe quelle personne qui vient nous demander son secours, on peut lui donner, qu'il soit du diocèse, qu'il soit de son village, qu'il soit de son pays ou non, permet dans l'exercice même de ces fonctions sacrées de se rapprocher de Dieu. Alors que, en fait, surtout à notre époque, c'est tellement rare de voir un homme public, même un simple député, que c'est son rôle de député lui permet en même temps d'être plus homme, au sens du cœur. Vous voyez ? Alors que c'est tellement frappant, quand vous regardez les papes, de voir qu'en fait, même visiblement, au fond, la grâce du pape les a, au fond, rendus encore plus humains, encore plus près des autres hommes. Alors, je crois que c'est tellement important, parce que pour moi, c'est ce mystère de notre époque, que le pape, par la volonté de Dieu, le pape c'est un prêtre, le pape c'est un évêque, le pape c'est lui qui est le mieux placé pour être prophète dans l'Église. Bien sûr, ça dépend du bon Dieu, ça dépend du Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit lui donne des grâces de prophétie, mais c'est lui qui est le mieux placé. Et si ce prophète, c'est un mystique, et que Jésus veut le mettre en rapport avec ses amis les plus intimes, il est le mieux placé. Vous voyez ? Et que quand on voit dans la vie de notre pape actuel, qu'il a tellement ce souci, mais en disant, mais pour que j'exerce bien ma papauté, mais il faut que je reste prophète, évêque, en donnant la parole parlée. Et nous savons très bien que le pape prépare ses discours. Mais ce qui déconcerte les journalistes, c'est quand il les donne, c'est pas la même chose. Il ajoute quelque chose, il en supprime. Enfin, au fond, il reste libre, cette liberté de l'Esprit-Saint. Et alors, il sent le besoin, il ne sait pas ce qu'il va nous dire en France. Ça dépendra de nous. Si nous sommes attentifs, si nous l'aimons, il nous donnera une parole qu'il faut tout à fait. Si nous ne l'aimons pas ou non pas, nous savons bien, les prophètes, ils ne peuvent pas donner la parole de Dieu. Vous voyez, et qui en même temps étant mystique, c'est-à-dire intimement lié au Saint-Esprit de l'intérieur, vivant dans l'instant présent, peut nous aider. Vous voyez, et dans l'attention du pape, c'est tellement sensible. Vous voyez, ceux qui veulent aider le plus, c'est ces pauvres prêtres. Et puis, c'est les âmes les plus saintes. Vous voyez, la manière dont il veut sauvegarder les religieux, par exemple, il sait qu'ils ont tant de difficultés à vivre leur vie religieuse actuellement, mais il veut chaque fois, dans tous ses discours, dire, mais la vie religieuse, vous savez, la religieuse traditionnelle, il faut la garder, elle est indispensable dans l'Église. Vous voyez, et si lui, s'il va à Lisieux, c'est bien pour rappeler, au fond, à toute la France, le rôle de la vie intérieure, de la vie contemplative. Vous voyez, alors je crois que ça nous montre que cette venue du Saint-Père, 8 jours après la Pentecôte, le jour de la fête de la Sainte Trinité, n'est-ce pas ? Eh bien, Il faut que nous la préparions. Oui, comme un événement, mais un événement dans le sens de l'Évangile. Vous voyez, un événement que nous remercions le bon Dieu de nous permettre de vivre cet événement. Mais de savoir en même temps que, au fond, c'est intérieurement que nous avons à le préparer.